Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bienvenue dans l'émission Ni Bu Ni Connu, une émission 100% dédiée au vin sur Divergence FM. Alors c'est une émission qui parle de vin, certes, évidemment, mais pas que. Parce qu'autour du vin, il y a aussi la gastronomie, les lieux de vie, les artisans passionnés, les reconversions, les boissons qui racontent une époque ou un territoire. Alors on peut parler d'un resto, d'une bière, d'un cidre, d'un kombucha, d'un concept bien pensé ou d'un personnage inspirant. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de Montpellier, entre les Halles Castellane et le quartier de l'Ancien Courrier, dans la rue du Bras de Fer, cette petite rue étroite et pleine de charme, connue notamment pour ses marches colorées parmi les plus célèbres et les plus photographiées de la ville. Et c'est là que se niche une adresse à part, Taquito. Un petit restaurant convivial, intime, où dès qu'on passe devant, quelque chose se passe. Ça sent les épices, ça sent la cuisine qui voyage, ça intrigue, ça donne envie d'y entrer. Et c'est là que je suis allé à la rencontre de Max, le patron de ce lieu, un homme au parcours de vie franchement atypique et à l'histoire aussi singulière que son restaurant. Allez, on y va.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
On part à Montpellier pour découvrir une belle trajectoire, celle de Max, un personnage au parcours hors norme qui a créé un mini-resto aussi cool que pointu, Taquito. On va parler de ton histoire, de sa reconversion, de ses inspirations, avec en bonus à la fin une petite surprise pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains. On y reviendra. Alors, pour commencer Max, tout simplement, qui es-tu ?
Bonjour à tous. Donc moi, je suis originaire à la toute base de Bretagne et comme beaucoup de Bretons, j'ai voyagé. Donc j'ai grandi de l'autre côté de la France, j'ai habité aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark principalement. Et lors de mon passage aux États-Unis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la cuisine de Louisiane, où j'habitais 2 ans et demi. Une belle cuisine autour des épices, autour de la cuisine de famille, de la soul food. Et j'ai voulu, quelques années après, retrouver ça et le faire découvrir. Donc moi, je viens d'un parcours plutôt commercial. Et j'ai décidé par choix de cœur d'habiter à Montpellier. Ce que je peux vous dire, c'est que toute cette histoire, c'est une belle histoire de coup de cœur. Donc moi, je suis passé sur Montpellier par hasard lors d'un rendez-vous. Et une semaine après, j'y habitais.
Voilà. Donc, et tu faisais quoi avant d'être dans la cuisine ?
Je faisais des rendez-vous avec les cuisines de maisons de retraite. Voilà. Donc je proposais du matériel de cuisine.
D'accord. Raconte-nous une semaine type, c'était quoi ton quotidien ?
Une semaine type, c'était aller au restaurant 2 fois par jour, rencontrer du monde, des clients, trouver des solutions techniques, et puis faire en sorte que les personnes âgées puissent manger le mieux possible. Donc avec une histoire de texture, de goût évidemment, puisque quand tu es âgé, tu as une perte de l'intérêt général, on va dire, hormis le sucre bien sûr. Ce qui est satisfait beaucoup de... Mais bon, on n'a pas forcément envie de ça.
Et du coup, c'est quoi, entre guillemets, le vrai moment de bascule, le déclic, où tu t'es dit maintenant, j'arrête mon ancienne carrière et je passe à la cuisine à 100%?
Alors, le déclic, je l'avais eu quand j'étais en Angleterre, où j'étais dans une très belle ville que je conseille à tout le monde d'aller, d'ailleurs, qui s'appelle Bath, B-A-T-H. J'avais envie de proposer à la base un restaurant autour du fromage français. Donc bien évidemment ça s'est pas fait puisque je suis parti reparti en mission en France. Et cette histoire s'est concrétisée, on va dire, dans le back-office de ma tête. Et à un moment c'est devenu inévitable, il fallait que je sorte un concept de terre. Donc j'ai pas voulu partir sur le restaurant du fromage, mais je voulais faire quelque chose qui puisse inclure tous les gens qui aiment le goût, qui aiment bien manger, autour d'une même table. Je voulais d'une certaine façon proposer le concept ultime qui peut correspondre à tous les goûts, on va dire, qui répond à toutes les contraintes alimentaires. Voilà.
Donc là, on était en
Là, on est il y a à peu près une dizaine d'années, donc on est en 2014.
D'accord.
2014, donc j'ai quitté mon poste, je me suis formé à Paris, et je me suis dit, bon, je me donne, on va dire, 5 ans pour me former, être carré-carré pour monter mon resto. Je me suis dit, je vais faire ce concept, mais je vais m'armer des meilleurs outils que je peux trouver. Et si je peux faire plaisir aux Parisiens et à ceux qui viennent à Paris, je pourrais faire plaisir au monde entier.
T'as refait des études, du coup, dans la cuisine ? Raconte-nous un peu ce passage.
Effectivement, j'ai repris les bases. J'ai fait le choix de l'école Ducasse, où je me suis formé en cuisine et des formations annexes de gestion de restauration aussi, et de salle, de service en salle. Donc, qui sont venus bien compléter toutes mes expériences que j'ai pu avoir à l'international ou ici en tant que client. Et l'erreur que je voulais pas faire, c'était le client qui monte son resto et qui pense connaître. Voilà. Donc, je me suis formé comme ça. Et ensuite, j'ai bombardé les postes en cuisine et en salle à Paris sur les années suivantes.
Et c'est quoi l'école Ducasse ? Raconte-nous un peu, fais-nous rêver, parce que le nom, on sait très bien que c'est un chef étoilé, certainement d'ailleurs je crois le plus étoilé au monde, ou en tout cas l'un des plus étoilés au monde, mais son école ?
Effectivement, très bonne question. Donc l'école Ducasse, c'est quelque chose d'assez unique en soi. Alors t'as d'autres écoles aussi, hein. t'as Bocuse, t'as Ferrandi, t'en as d'autres aussi qui m'échappent.
Cordon bleu, non, aussi
Oui, c'est ça, Cordon bleu, c'est bien ce qui me semblait. Après, ce que j'ai vu à Paris, c'est vraiment Ferrandi, Ducasse, c'est les références. En tout cas, à mon époque, les gens connaissaient bien.
À mon époque. Putain, c'était il y a 10 ans.
C'était il y a seulement 10 ans, ouais, c'est vrai.
Et on t'apprend quoi pendant... Enfin, c'est quoi le rythme ? Une semaine en alternance, une semaine à l'école, c'est comment ?
Alors, t'as plusieurs goûts, plusieurs saveurs, on va dire. Hein. Donc, moi, j'ai fait le choix d'être à fond, donc sur plusieurs mois, de faire que ça, une vraie formation. Vraie formation en cuisine, entre 8 et 10 heures par jour. T'arrives tôt le matin et tu cuisines, tu fais tout, toutes les recettes du chef. Tu as un de ces chefs qui te montre tout, voilà, et t'as des postes de cuisine. C'est l'environnement idéal pour celui qui veut se perfectionner en cuisine.
C'est quoi ton meilleur souvenir dans cette école alors ? Ou ta recette préférée ? Raconte une petite anecdote.
Alors, je pense que l'examen final, qui était un peu la consécration de ce travail de groupe, était le plus beau moment où on a présenté tous nos plats et où on a pu voir effectivement le niveau qu'on avait pris, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une cuisine qui était très orientée, ce que j'ai beaucoup aimé, pour répondre à ta question initiale, Ducasse, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment sublimer des recettes traditionnelles. C'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a fait partir dans sa formation. C'est que ce monsieur, en fait, son histoire, c'est qu'il est parti du livre de sa grand-mère, et il est revenu à la base, aux ingrédients, donc vraiment le choix du produit, le choix de l'assaisonnement et la juste cuisson. C'est ce qu'il disait toujours. Le bon produit, le bon assaisonnement et la bonne cuisson. Et donc j'ai bien aimé ce côté vraiment proche de la terre, de tout ce qui est authentique, de l'aspect authentique de la cuisine. C'est ce qui me parle le plus, en tout cas. Et voilà.
Alors quand l'idée de Taquito arrive, elle naît comment ? D'une envie de cuisine, d'un voyage, d'un souvenir, d'une frustration, d'un imaginaire ? Raconte-nous, comment ça vient ?
Alors d'une certaine façon, c'est vraiment mon intuition qui a parlé, et je dirais que je l'ai laissé venir. Donc pendant longtemps, je parlais de Taquito comme, on va me prendre pour un fou, mais comme une constellation dans le ciel que j'ai vue moi. Mais le moteur initial, c'était de pouvoir proposer plus que des alternatives, mais une cuisine autour du végétal. Et arriver à convaincre les gens, donc sans propagande, mais arriver à convaincre par l'assiette que le végétal est vraiment bien souvent le centre du sujet. Voilà, le centre du sujet. Donc
c'est né de cette envie de...
C'est né de cette envie de faire plaisir et de faire découvrir. J'ai trouvé que de plus en plus de monde autour de moi était intéressé par cette idée du végétal. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse un concept qui puisse réunir encore plus et surtout ne pas fermer les portes à ceux qui ont malheureusement pas le choix, comme les intolérants, je pense au lactose,
sûr, ouais.
intolérants au gluten, hein, voilà.
Et d'ailleurs, t'es sans gluten.
Et ici, c'est exactement, on a fini par, j'ai fini par décider de tout faire sans gluten. C'était finalement plus simple. Et
ça consiste en quoi du coup de faire sans gluten? Raconte-nous peut-être en 2-3 minutes.
Alors le sans gluten, c'est déjà pour être assez général, c'est ne pas utiliser tout ce qui a du blé. Donc le blé, certes, on le trouve dans le pain, dans les pâtes, dans la pâte de la pizza,
dans aussi, ouais.
Et dans la bière, c'est vrai. Tu connais ça?
Bon, allez, je m'en vais, c'est bon, il n'y a pas de.
Et d'ailleurs, on a de la bière sans gluten locale et bio. On a eu cette chance d'avoir cette brasserie juste à côté, la brasserie des Garrigues. Donc pour répondre à la question, le sans gluten, voilà, c'est surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas de blé dans les produits que tu utilises. Donc par exemple, le soja, ou la sauce soja, ou un petit peu tout en fait. Tu peux en avoir, c'est surprenant. Tu peux en avoir partout. Voilà.
Ok. Ouais.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
Donc Taquito, justement, c'est quoi pour toi? Un restaurant, un comptoir, un lieu de vie, un terrain de jeu culinaire? Comment tu le définis avec tes mots à toi?
Alors moi, c'est clairement un lieu de vie. Pour moi, c'est un lieu de vie. C'est justement toujours cette histoire de se retrouver autour d'une table et partager ensemble des bons produits parce qu'on aime les bons produits. C'est vraiment le fondement de Taquito.
Finalement, c'est tout simple, mais c'est clair, net et précis. C'était un rêve que tu arrives à mettre en réalité?
On peut dire ça, ouais, tout à fait. C'est une envie. Alors c'est à la fois évident, mais à la fois il a fallu le déchiffrer, quoi.
Ah, tu m'étonnes.
Ouais.
Ça m'amène à la deuxième question. Qu'est-ce que tu voulais raconter ou transmettre à Montpellier en ouvrant ce lieu? Quelle était l'intention de départ au fond?
L'intention, c'est de faire voyager.
Ouais.
L'intention de base, c'est ça. De voyager sans bouger de sa chaise.
Et raconte-nous 2-3 plats qui font voyager, par exemple tes plats signature ou les plats que tu fais ici au restaurant.
Alors effectivement, donc on peut voyager, on peut partir en Asie avec le poulet Hong Kong. Donc on vous prépare un effiloché de poulet à base de haut de cuisse qui va être cuit à l'étouffée avec du soja sans gluten et du vin blanc. Et pas mal d'épices, on va dire autour des 5 épices. Donc c'est parfumé, c'est umami. Et ça, comme nos autres plats, on les sert toujours de façon équilibrée, puisque l'idée c'est de pouvoir venir et revenir, donc des légumes de saison qui vont changer au fil de l'année. Et on a aussi, par exemple, je pense au tatka, qui est un plat à base de dal indien, donc des lentilles corail mijotées autour du curry. Et le jerk chicken, qui était l'emblème et qui est revenu maintenant, qu'on avait arrêté quelques mois. Donc c'est un poulet caribéen qui va être mariné 24 heures avec une marinade maison autour du gingembre et du piment doux, qui va être snacké ensuite à la plancha. Est servi avec un riz parfumé, des courgettes, du maïs grillé et une sauce réduite coco ananas.
Wow, comment on fait une sauce réduite coco ananas?
Alors déjà, il faut du temps et il faut des sucs.
C'est-à-dire, raconte-nous un peu, fais-nous saliver.
Alors, si je dois te donner tous mes secrets, je te dirais que la base, c'est d'avoir du bon poulet. Il faut le faire mariner. Ensuite, je le fais griller à la plancha et je récupère les sucs.
Okay.
Et donc les sucs, ce sont toutes les petites parties grillées
Qui collent à la poêle.
Qu'on va venir déglacer et qui contiennent en fait de l'essence de saveur. Et ça, on va donc le retravailler avec du liquide et ensuite le faire cuire doucement et longtemps.
Ça le concentre les goûts.
Voilà,
ouais,
pour que une partie de l'humidité quitte cette sauce et donne une texture un peu plus enveloppante, envoûtante.
Ok. Et là, tu arrives ici, dans ton espace, à faire ce genre de sauce?
Alors ça, c'est une autre partie du projet. C'était réussir, donc au départ, parce que là, on est dans une jolie salle de 30 mètres carrés, mais tout est parti de la cuisine de 6 mètres carrés qui est encore là, qui a été refaite. Mais le sujet, ça a été l'organisation, c'est sûr, et l'optimisation.
Super, ça nous a fait saliver tout ça, on a envie de venir tout goûter. Moi je connais quelques plats parce que je passais dans la rue du Bras de Fer il y a quelques mois, j'ai découvert ton restaurant, j'ai adoré ça. Reparlons de ton profil, c'est ça que les gens veulent connaître quand on vient découvrir un endroit. Mm-hmm. C'est vraiment l'esprit du fondateur. Dans cette reconversion, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Quitter un poste cadre, apprendre un nouveau métier, prendre un risque financier, voilà, si tu as envie de nous parler un
Alors,
peu de ça.
Alors, moi, je n'ai pas, vécu cette transition ou cette transformation comme difficile. Je dois dire que peut-être le volume horaire, donc c'est sûr, le volume horaire est nettement supérieur et intense à ce que j'ai pu connaître.
Tu faisais quoi avant et tu faisais combien avant et maintenant tu fais comment ?
C'est plus une question de liberté. Aujourd'hui, ton rythme, il est dicté par l'arrivée des clients. Donc, ils arrivent à midi, ils arrivent le soir. C'est une certitude et tu t'organises autour de ça. Mes journées étaient beaucoup plus libres avant et voilà. Donc, c'est plus ce côté-là. Maintenant, j'avoue que j'ai toujours un optimisme et un enthousiasme qui font que je ne vis pas cette aventure comme une difficulté, mais plutôt comme une succession de micro-ajustements, de décisions stratégiques voilà, et de contacts clients permanents qui permettent justement d'ajuster notre offre.
Et alors Montpellier, pour un lieu comme Taquito, c'était ou c'est une évidence ou c'est un pari ?
Alors ça a été un pari, clairement, parce que je connaissais la ville que finalement très peu, j'y suis resté... 6-8 mois.
Puis il y a mais le Covid aussi.
Pardon ?
Il y a le Covid aussi.
Voilà, bon, ça, je te parle de à mon époque, il y a une dizaine d'années. quand je suis venu, effectivement, je me suis installé, j'ai vraiment peaufiné le concept. Pendant un an, j'ai fait de la recherche et développement sur mes recettes. Et le Covid, oui, le Covid, 3 mois, 4 mois après l'ouverture, un petit peu dur parce qu'effectivement, on n'était pas encore connu. Mais en même temps, étant dans une ruelle avec le stock pour manger, pour boire un coup, finalement il y a eu quelques apéros et qui laissent quand même de très très bons souvenirs.
T'es en train de nous dire que là, les couvre-feux, tout ça, tu t'en moquais un peu quoi.
Comme je t'ai dit, je m'adapte à la clientèle. Et tu vas me demander.
Pas de dénonciation.
Il n'y a pas de preuve de toute façon.
On parlait tout à l'heure en off, petit restaurant, petite cuisine, une organisation carrée. Qu'est-ce que les gens ne voient pas forcément derrière un petit restaurant comme le tien ? Petit en termes de surface, évidemment.
En termes de surface, oui. Franchement, c'est la recherche, l'organisation, les modifications constantes, les ajustements constants, tout en essayant de répondre à 100% et en surprenant.
Est-ce qu'il faut aussi optimiser l'espace ? Comment tu as travaillé du coup la surface ici pour que ce soit le plus optimisé possible ?
Alors, techniquement, j'ai travaillé sur un logiciel Archi pour planifier, pour tester. Et il y a eu une douzaine, 10-12 versions de l'agencement de la salle. Et dans ma botte secrète, ma petite femme.
Ok.
Qui m'a énormément aidé depuis le début. En fait, on s'est rencontrés juste avant et tu vois, donc c'est vraiment notre histoire
à tous les deux.
Ouais. À tous les deux, ouais.
Bon, en résumé, si tu devais d'ailleurs résumer Taquito en 3 mots ou en 3 sensations, ce qui te vient comme ça à l'esprit.
Donc, voyage, je l'ai déjà dit, mais j'irais parfum, surprise. Et l'équilibre des saveurs qu'on appelle le umami.
Ok. Bon Max, on se connaît maintenant depuis quelques semaines. Je viens déjeuner assez souvent ici. Son histoire, elle est vraiment originale. Un mec qui fait une reconversion dans la cuisine, qui fait l'école du casse, qui vient s'installer à Montpellier dans la rue du Bras de Fer, qui monte un minuscule restaurant d'abord à emporter, puis 30 mètres carrés pour manger sur place. C'est quand même dingue. On a eu ensemble envie de créer quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Absolument. Donc... À partir des beaux jours, mi-mai, le jeudi 14 mai...
L'Ascension,
exact. Avec Willy, on va vous proposer une soirée, un service, en 4 temps, avec des accords mai 20.
On n'en dit pas plus. Moi, journaliste, auteur 20, mes découvertes liées vraiment au breuvage d'Héraclès. Toi, la partie...
Cuisine savoureuse, parfumée, le voyage...
On est en train de concocter effectivement un petit menu très sympathique en 4 temps. On se donne donc rendez-vous le jeudi 14 mai à Taquito, rue du Bras de Fer.
19h.
19h, en plein cœur de Montpellier. Et bah Max, merci beaucoup en tout cas pour cette émission.
Merci à toi.
Et bah bon rush et bon service du soir.
Allez, à bientôt.
À bientôt.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin ?
J'aime beaucoup ça.
Et pour terminer cette émission, un petit détour par une actu qui sent bon le printemps, le terroir et les sorties à vivre entre amis ou en famille. Notez bien une date, le samedi 2 mai 2026, la commune de Pignan dans l'Hérault accueillera la toute première édition de la Vélo Vin Hoc, une balade VTT œno-gourmande qui mêle vélo, découverte des paysages viticoles et pause gourmande au cœur des domaines. L'idée est franchement séduisante, proposer une expérience immersive dans un terroir situé aux portes de Montpellier avec un parcours qui emprunte à la fois les chemins communaux et des chemins vignerons, le tout ponctué d'arrêts dans plusieurs domaines partenaires. À chaque étape, les participants pourront découvrir des cuvées coup de cœur accompagnées de ravitaillements gourmands. On est donc à la croisée de la balade sportive, de l'œnotourisme et du plaisir de bien manger et bien boire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'événement ne s'adresse pas uniquement aux gros sportifs. Deux formats sont proposés, une boucle de 33 km pour les plus motivés et un parcours de 23 km pour quelque chose de plus accessible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cette journée à différents profils, avec à l'arrivée un village vigneron pour prolonger le moment dans une ambiance conviviale. Au-delà du côté festif, le Vélo Vin Hoc apporte aussi un message fort. Les organisateurs rappellent qu'à l'heure où l'arrachage de vignes transforme progressivement les paysages, cet événement veut aussi être un moment de valorisation et de soutien à celles et ceux qui font vivre ce terroir au quotidien. C'est donc une manière très concrète de remettre en lumière la richesse viticole de Pignan et ses environs dans un format original, vivant et populaire. Côté pratique, les départs sont annoncés entre 10h30 et 11h15, avec des places évidemment limitées, donc mieux vaut ne pas trop tarder si l'idée vous tente. Et puis, détail qui peut avoir son importance, l'événement annonce aussi une élection du plus beau déguisement, ce qui donne tout de suite le ton, on sera autant dans la bonne humeur que dans l'effort. Pour en savoir plus, direction les réseaux sociaux de l'événement sur Instagram Vélo Vin Hoc et sur Facebook Vélo Vin Hoc. Une belle idée de sortie pour celles et ceux qui aiment pédaler, découvrir un terroir autrement et partager un moment gourmand au milieu des vignes. À la semaine prochaine.
Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi ? De vin ? De poésie ? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage aux vignobles du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça. Hein.